le père raconte son parcours et raconte son passé, un passé que donc Carmen ne connaissait absolument pas, qu'elle va découvrir, et alors je le révèle puisque chacun est censé l'avoir lu, elle va découvrir que en fait ce père donc exilé d'Argentine était un tortionnaire, puisque en Argentine dans les années fin milieu des années 70 jusque dans les années 80 il y avait une dictature, et donc il a participé de façon active puisqu'il a torturé à cette dictature, et pour Carmen évidemment c'est un gouffre qui s'ouvre, et elle va découvrir au passage l'histoire de sa mère aussi, qu'elle croyait connaître et qu'elle ne connaît pas, et puis elle va découvrir son propre passé. Donc il y a trois passés qu'elle découvre et qui vont évidemment bouleverser la vie de Carmen. Alors on voit que c'est des livres qui peuvent avoir des résonances. Il y a des histoires de transmission, il y a des histoires de mémoire, il y a l'histoire, évidemment, l'histoire du XXe siècle, et particulièrement des périodes un peu difficiles. Donc il est aussi question de barbarie, il est question du mal, et de comment est-ce qu'on rentre là-dedans, ou comment, quand on y a été confronté, on peut... Alors c'est un terme un peu à la mode, être résilient, je ne sais pas si c'est un mot qui rentre dans votre vocabulaire, mais en tout cas comment est-ce qu'on peut surmonter ces épreuves et comment on peut arriver à composer avec, enfin est-ce qu'on arrive à oublier ou est-ce qu'on est obligé de composer avec ça? Donc il y a des... Et puis alors, pour terminer, c'est aussi deux livres qui ont quand même deux tonalités assez différentes, hein, puisque dans le livre de Johanna, il y a les carnets qui constituent des chapitres en italique et donc une espèce de correspondance à distance, alors que dans le livre d'Alain, c'est des chapitres chronologiques. Et puis il y a aussi un côté, un souffle poétique qui est assez fort et qui est lié aussi à la culture tzigane. Ou en tout cas que peut-être vous avez aussi... insufflé, inventé en partie pour donner l'idée de cette culture. Donc moi j'ai une première question et après je vous passe la parole. La première question c'est, comme on est dans le cadre du festival du premier roman, tout simplement, qu'est-ce qui, l'un et l'autre, vous a donné envie d'écrire ce premier roman? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce premier roman?
Tout le monde entend? Ça fonctionne?
Oui.
Ce roman, je le traîne depuis 30 ans. Ça commence en 1990 par un concours de nouvelles que je vois une affiche dans un lycée. Le sujet, Les Chevaux de la Gloire. Je n'ai aucune idée. Il me reste 3 jours pour participer à ce concours. J'entre au CDI, je prends un livre, je l'ouvre au hasard et je lis Johann Torvat, premier tzigane mort à Mauthausen. Et à partir de là, je me suis dit, je vais inventer un nouveau destin à ce Johann. Et donc, je le fais sortir de Mauthausen, gagner une course de chevaux et reconstruire un cirque équestre. Et cette nouvelle va faire son chemin, puisqu'elle va intégrer un roman beaucoup plus vaste de 750 pages que j'écris en gros de 2000 à 2015. Voilà. Que j'appelle le truc, parce que ça ne ressemble à pas grand-chose de connu, parce que ça a été écrit sur 15 ans. Et donc, ça manque de cohérence. Et donc, en 2019, ma compagne et moi vendons tout ce que nous possédons et nous partons en Asie centrale. On commence par le Kirghizistan, c'est là que commence le roman. Et au bout de 9 mois d'errance en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, on se retrouve, j'allais dire comme tout le monde, confiné en Thaïlande. Et c'est donc pendant ces mois de confinement que je vais reprendre le manuscrit... gigantesque de 750 pages pour en extraire ce qui dans le roman n'était que une vie du personnage sur 7 et même pas la dernière. Et ça ne suffisait pas à en faire un roman et donc il m'a fallu quand même travailler un petit peu pendant 2 mois, raison de 18 heures par jour à peu près, et le roman sera retravaillé un petit peu plus tard en Patagonie chilienne et dans le désert d'Atacama, ce qui constitue de fabuleux bureaux, vraiment fabuleux. Voilà l'histoire. Après, l'idée vient aussi de l'enfance. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler tout à l'heure.
Juste sur le travail, c'est assez amusant. Il y a une vidéo où on voit votre éditeur, j'en parle, qui s'appelle Alexandre Civico, qui est aussi un auteur qu'on a invité, qui vient régulièrement au festival, et il raconte comment vous avez retravaillé ce roman, et il disait, bah voilà, Alain était dans le désert d'Atacama, par exemple, et puis moi j'avais des choses à lui dire, mais c'était un peu compliqué parce que il y avait que des créneaux bien précis pour avoir du réseau, pour pouvoir retravailler.
Et 6 heures décalage horaire, ce qui n'était pas toujours simple, en fait.
Johanna, pour ce qui vous concerne, comment ça s'est passé, ce premier roman ?
Alors, vous m'entendez bien ? Ouais. Ce premier roman, il a 2 déclencheurs. Le premier, il est très intime, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi, mes grands-parents ont survécu à la Shoah, donc j'ai grandi avec voilà, cette souffrance palpable, des non-dits, même s'il y a des choses qu'on m'a expliquées, et donc avec voilà, une forme d'incompréhension. Face à ce qui a pu se. Enfin, face à toute cette systématisation de la violence. Voilà, bref, ça c'est le premier point de départ qui fait partie de moi. Et le deuxième, c'est pendant mes études, j'avais espagnol première langue, donc j'ai vraiment plongé dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Et lorsque j'ai découvert l'internement des femmes enceintes et des enfants volés, etc., qui sont donc des enfants qui ont à peu près mon âge, ça m'a tellement sidérée que ça m'a voilà, accompagnée plusieurs années. Et voilà, plus tard, la rencontre de ces, voilà, de ces deux pans-là ont donné naissance à ce livre et à cette histoire.
Alors maintenant que les bases sont lancées, sont données, qui veut poser sa première question et à qui ?
Alors, vous nous avez dit que vous aviez écrit avant que le monde ne se ferme quand vous étiez en voyage. Et au moment où la crise du coronavirus a débuté, et donc dans cette période où l'immobilité a été en quelque peu forcée, est-ce que vous avez réussi à trouver une sorte de voyage lorsque vous écriviez les aventures des personnages contenus dans le roman ?
Oui, ça a été une façon de continuer à voyager, voyager en fait immobile, hein, à la manière de Giono, puisque en fait... dans le roman, j'ai refait d'une certaine façon le voyage que nous avions fait, enfin en partie. Je vous l'ai dit, le roman commence au Kirghizistan, c'est là que nous avons commencé. Et nous sommes passés par le désert du Dashelout, qui est un désert iranien dont il est question très brièvement dans le roman. Et aussi en Inde, qui est un endroit essentiel dans le roman, où on a passé 3 mois plein. Donc oui, c'était une façon de refaire le voyage autrement, en le prêtant à quelqu'un d'autre. Et en, bon, ceci étant dit, mon confinement était doré, hein, le confinement thaïlandais. Voilà, je mangeais des mangues et de l'ananas et la mer était à 32 degrés. Hein, voilà. Il faut quand même relativiser mon malheur. Mais pour nous, après 9 mois, c'était l'année où on décidait de tout lâcher, qu'on se retrouvait en quelque sorte avec un monde qui se fermait devant nous. Donc il y avait un petit peu de colère quand même. Et donc oui, ça a été pour moi une façon de ne pas perdre pied en fait et de continuer comme ça à voyager tout en étant contraint de rester au même endroit.
Pendant le confinement, donc vous venez de dire que le monde se fermait, donc il y a forcément sûrement un rapport avec le titre du livre « Avant que le monde ne se ferme ». Est-ce que il y a plusieurs idées et à ce titre, enfin, est-ce que ça représente beaucoup de choses ?
Alors le monde se ferme plusieurs fois dans le roman, hein. Il se ferme en fait avant déjà la Seconde Guerre mondiale, hein, j'ai un peu triché avec l'histoire dans la mesure où mes tziganes voyagent assez facilement. J'ai argué du fait que c'était un cirque connu qui avait des laissés-passer particuliers, mais en réalité dès les années 20 en URSS, il était impossible pour les tziganes de sortir de certaines zones géographiques, hein. Donc le monde en fait globalement a toujours été plus ou moins fermé devant les tziganes. Simplement la fermeture va être encore plus importante au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement, même après-guerre le monde se referme à nouveau devant eux, puisque déjà des routes sont construites qui vont sillonner le paysage et le réduire à l'état de quadrillage. Et ensuite, parce que réellement, même dans les endroits prétendument libres de la planète, comme la Patagonie, nous avons sans cesse constaté qu'il n'existe quasiment plus de terre qui ne soit distribuée à quelqu'un, qui n'appartienne à quelqu'un. Tout est clôturé, même la mer. Hein, en Patagonie, on a vu des barbelés qui entrait dans la mer. On ne pouvait pas s'approcher en fait de la mer parce qu'elle était barbelée. Donc on est dans un monde où quand on est français, il est très facile de voyager. Mais cette liberté-là, malheureusement, elle n'est pas l'apanage de tous les peuples. Et beaucoup sont cloîtrés chez eux malgré leur désir de sortir. Ou quand ils parviennent à sortir, on les renvoie gentiment chez eux. Enfin, gentiment, c'est une autre histoire.
Allez, allez.
Et vous dites, enfin, j'ai juste une autre question, c'est il n'y a pas aussi les personnages qui vont se renfermer sur eux-mêmes, surtout Anton, à la fin de la, à la fin de la guerre, quand il arrive en Amérique. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tellement de morts dans sa tête que ce qui ne devient pas non plus lui un tombeau et se ferme à nouveau.
Il se ferme momentanément, ça j'en conviens, c'est-à-dire aux États-Unis, lorsqu'il récite le nom des morts, c'est la seule et unique fois où il va raconter son histoire complètement. Après, il ne livrera plus que des bribes. Donc oui, il y a un moment d'enfermement, mais qui ne dure pas, puisqu'il trouve un moyen de se délester du nom des morts. Et donc j'ai choisi le Gange, parce que c'est un lieu hautement symbolique où tous les hindous rêvent d'aller se faire incinérer et déposer leur cendre dans le Gange. Donc j'ai choisi de le faire en plus au moment où on déposait un petit peu plus loin les cendres de Gandhi. C'était symbolique, on va dire. Donc oui, il se ferme à un moment donné, se referme sur lui-même, se libère momentanément et il a une rechute. Il a une rechute vers la fin et il est obligé de retourner en quelque sorte à Mauthausen pour voir si oui ou non il a encore envie de vivre. Et la réponse est oui, en fait. Donc il y a bien une fermeture à un moment donné, mais il y a de nouveau un espace qui s'ouvre à la fin, puisque le roman se termine là où il a commencé, hein, c'est-à-dire sur les hautes plaines de Sarimogol. Donc il faut imaginer une plaine à 3500 mètres d'altitude, avec d'un côté le Pamir et de l'autre la chaîne du Tien Shan qui culmine à 7000 mètres. Et si le roman est né là, c'est parce que je crois que notre voyage est vraiment né là. Ça a été un choc visuel, culturel, etc., physique aussi. Parce que, voilà, on a fait de la haute montagne et que c'est éprouvant. Mais donc le livre se termine sur une ouverture, en fait, hein, qui est l'ouverture des hautes steppes et une sorte de retour à Ithaque. Voilà.
Et ça vous a jamais gêné de parler du coup de la ça vous a jamais gêné de parler de la barbarie des camps de concentration ou et de cette violence? Et du coup, je renvoie aussi la question au livre de Avant elle, qui parle aussi de souffrance en fait de certaines populations.
Tu veux commencer? Poser problème, oui, certainement. C'est pas forcément un moment très joyeux dans l'écriture, mais c'est un moment nécessaire en fait. Pour moi, ça a été une façon de restituer poétiquement mes lectures, puisque en 2001, 2002, 2002, 2003, si ma mémoire est bonne, Si c'est un homme de Primo Levi était au programme de Terminal L et j'enseignais en terminal littéraire. Et donc, pour préparer ce cours, j'ai dû lire une cinquantaine, une soixantaine de livres sur la Shoah. Et il y a eu une très très longue digestion, hein, avant restitution de comment dire, un discours. C'est pas un discours que je tiens sur la barbarie, c'est plutôt une mise en scène. Je mets en scène la barbarie, je mets en scène le mal, notamment dans les ghettos et dans les camps, mais toujours avec cet esprit, avec cette idée que la lumière doit rester présente. Donc même s'il y a eu des moments difficiles dans l'écriture, j'avais toujours déjà mon personnage qui me tirait la tête hors de l'eau, puisque lui, il avait la tête hors de l'eau grâce à sa fantaisie, grâce aux rêves, grâce aux femmes aussi, hein, aux jeunes femmes qui hantent son imaginaire, à la fois femmes réelles et femmes rêvées ou femmes littéraires. Ça a permis de traverser avec lui, en fait, ces camps-là. La difficulté pour moi était de ne pas trop en faire, c'est-à-dire de rester relativement sobre, sans aller dans ces l'écueil à éviter, je pense, c'est la complaisance, en fait, dans les descriptions du mal ou du malheur. Donc il faut rester en fait, on reste en deçà de la vérité, hein, de toute façon. Voilà.
Du coup, je vais faire une réponse dans le même sens qu'Alain, c'est-à-dire que les passages, en l'occurrence, donc, dans Avant elle, de torture, qui sont présentes à un moment, étaient donc nécessaires. Ils sont très inspirés de témoignages que j'ai pu écouter, de lectures que j'ai pu faire sur les procédures réelles de torture. Et ensuite, la difficulté était en effet de ne jamais être complaisant, de ne jamais être dans l'excuse et de ne jamais non plus être dans la gratuité. C'est-à-dire, voilà, donc c'est finalement une ligne de crête qui n'est pas évidente pour avoir cette, être factuel, être juste et en même temps avoir une mise en scène qui, voilà, qui permette à l'histoire de continuer de s'écrire. Ensuite, évidemment, c'était des passages difficiles à écrire, forcément. Je pense que c'est ce que j'ai écrit de plus rapidement en fait dans le roman, tellement ça devait être assez insupportable. Voilà, en tout cas, ce sont des passages qui sont très fidèles à des témoignages, voilà, de par rapport à ce qui s'est passé à l'ESMA.
Mais alors sur cette violence, je rebondis moi par rapport à vous, Johanna. Puisque vous avez dit que donc vous êtes d'origine polonaise, vous avez une famille qui a connu la violence et la barbarie. Est-ce que écrire sur l'Argentine, sur ce qui s'est passé, c'était une façon moins violente pour vous d'aborder aussi une histoire familiale, de pas l'aborder directement justement ?
Oui, absolument. C'est la stratégie du détour, la stratégie du détour, et en même temps. Aussi parce que je suis entrée dans cette histoire par, donc je disais tout à l'heure, le prisme des enfants volés. J'étais persuadée qu'en réalité je voulais écrire une histoire sur les enfants volés. Et la petite anecdote, c'est que dans le cadre de mes recherches pour écrire ce livre, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un psychiatre argentin, et donc je lui posais des questions en fait pour nourrir mon travail. Et donc le hasard a fait qu'il était psychiatre, le hasard a fait que je l'ai rencontré dans son cabinet, dans le fauteuil du patient, et qu'à la fin de notre échange, qui ressemblait donc globalement à une consultation, il m'a dit « mais en fait ce qui t'intéresse c'est pas les enfants volés, c'est le bourreau ». Et donc là il a vraiment eu un rôle de dramaturge en fait sur le roman, et donc je me suis dit « ah mais oui c'est ça ». Et donc en fait mon entrée est celle des enfants volés, mais j'ai pris conscience à travers le travail de recherche qu'en fait ce qui m'intéressait c'était le bourreau. Et donc oui, clairement le point de départ est familial, et c'est une mise à distance qui m'a permis effectivement d'interroger toutes ces problématiques liées à la violence, à la banalité du mal, etc. Voilà, de cette manière-là. Et puis l'envie aussi, bien évidemment, de partager cette histoire qui me semblait assez méconnue alors qu'elle est extrêmement proche de nous. Et ça me semblait nécessaire d'en parler.
Et c'est un point de vue original parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas dans les romans, enfin rarement, le fait d'aborder la violence par le bourreau. En général, effectivement, on met un personnage qui subit et donc on est aussi en empathie, on comprend aussi cette violence, est-ce qu'on en subit, mais se mettre dans la tête d'un bourreau, ça ne doit pas être évident. Autre question ?
Tous les deux, dans vos livres, vous parlez des guerres, des limitations de liberté ou de déplacement. Et ce qui fait, ces deux romans sont donc assez ancrés dans notre époque avec la guerre en Ukraine, avec le confinement il y a 2 ans. Est-ce que quand vous les avez écrits, vos romans, vous aviez cette idée de dénoncer ce qui se passe autour de nous encore aujourd'hui, ou c'était plutôt des romans d'histoire pour raconter ce qui s'est passé avant ?
Oui, il y a toujours cette volonté, même lorsqu'on parle du passé, beaucoup de romans semblent parler du passé et en réalité parlent du présent, ou semblent parler de l'avenir et en réalité parlent du présent, pour faire référence à la science-fiction. Donc oui, il y avait cette idée parce que nous étions face à un monde en train de se fermer, mais aussi parce que l'histoire des Tziganes, qui est quand même un peuple mal compris, méconnu, méprisé parfois par les gadgets que nous sommes, l'histoire de ce peuple continue et le monde se ferme encore plus devant eux qu'autrefois, puisque maintenant ils sont globalement parqués. Très surveillé parce qu'il y a une acculturation très très forte. J'ai enseigné à des enfants de Tziganes en classe de 6e. Le maître mot c'était intégration, mais en réalité on peut raisonner en termes de désintégration, c'est-à-dire d'annihilation. Il s'agit de détruire une culture avec des pincettes, mais c'est quand même bien ce dont il est question. Ce qui fait que les Tziganes aujourd'hui sont un peuple très acculturé et un peuple qui a pris de notre monde finalement ce qu'il y avait de pire. Voilà. Et donc cette histoire de l'enfermement des Tziganes continue. En Europe, on peut considérer les populations roms finalement comme, d'un point de vue purement juridique, hein, ils sont considérés presque comme des sous-citoyens. J'attends de voir ce que donnera l'entrée de la Roumanie vraiment dans l'espace Schengen, si ça se fait, ce qui n'est pas le cas, il me semble, pour voir comment nous traiterons les populations qui sont censées pouvoir se déplacer librement et qui en réalité ne peuvent pas.
Et dans mon cas, oui, la volonté n'était clairement pas d'écrire un roman d'histoire, même s'il y avait le souci de partager cette grande histoire-là, mais de parler de l'humain et de parler de ce qui fait qu'on bascule. Et malheureusement, c'est d'une terrible actualité, ça l'était déjà à l'époque. Et je me souviens, en fait, à l'époque, j'avais commencé par écrire, ce qui m'obsédait, c'était en quoi le manque de reconnaissance et en quoi le besoin de reconnaissance et le vide idéologique, le vide de croyance, le sentiment de non-appartenance à une famille fait qu'on peut basculer. Et j'avais commencé à écrire, il me semble, l'histoire de jeunes qui se radicalisent. Et puis juste après, il y a eu les attentats, etc. Donc j'ai pas pu écrire là-dessus. Et je suis partie voilà, sur cette histoire-là. Donc oui, clairement, le souci était de parler du monde, de l'humain et de, voilà, du danger qui nous guette quotidiennement.
Et du coup, pourquoi avoir fait le personnage de Carmen, un personnage qui est plutôt instable, qui a une maladie psychologique, du coup ? Pourquoi ?
Alors, de la même manière, c'est issu de... J'ai écouté beaucoup de témoignages, en fait, d'enfants volés, en tout cas de ceux qui ont été identifiés comme tels. Et j'avais été marquée, donc il y a différents profils, en tout cas par un jeune homme qui disait c'est terrible, en fait, d'un seul coup, de devoir reconstruire sa vie sur du vide. Et ça a fait écho en moi. Et pour moi, Carmen, c'était un peu ce personnage-là. Et donc, c'était nécessaire qu'elle soit borderline, qu'elle soit sur un fil au départ, parce qu'il y a un mystère, quelque chose qu'elle n'arrive pas à saisir et qui explique qu'elle, en fait, elle vit sur du vide. Et le fait de percer ce mystère-là va faire qu'elle va peut-être pouvoir enfin démarrer une vie. Donc, c'était nécessaire de la faire borderline.
Et du coup, pour continuer sur les personnages, est-ce que vous pensez que Ernesto et Marco sont foncièrement mauvais ou c'est dû à un endoctrinement ?
Alors là, on est vraiment dans la question de la banalité du mal dont on parlait et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu va basculer ? Donc, dans mon roman, j'avais le souci d'essayer de mettre en avant... différents points de bascule. Donc, donc c'est basé sur différentes lectures aussi, mais il y a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'appartenance à une famille. C'est quelqu'un qui veut devenir quelqu'un. Donc, voilà, il a une croyance idéologique très forte. Donc, tout ça fait qu'il a des prédispositions aussi à l'obéissance. Et voilà, et petit à petit, ça va basculer. Je ne crois pas à l'hypothèse de ce qu'on pourrait appeler le mal radical. Je crois vraiment à ce... Voilà, il ne naît pas foncièrement mauvais, mais ça glisse pour un certain nombre de raisons, ce qui oblige à une vigilance de tous les instants. Et peut-être tu veux rebondir, Alain, là-dessus.
Je veux bien rebondir sur la banalité du mal. Alors, vous êtes en première pour les plus âgés, donc peut-être vous aborderez ce concept qui a été en fait formulé par Hannah Arendt en 63 au procès d'Eichmann à Jérusalem. Le livre de Johanna et le mien, effectivement, aborde la banalité du mal, mais je tiens beaucoup aussi à la banalité du bien. Dans mon roman, en tout cas, j'ai essayé d'aménager des portes de sortie, des lumières, parce que, en fait, oui, le mal est banal, mais le bien aussi, à égalité, en fait. Hein. Simplement, on a tendance, parce qu'il y a eu des moments cataclysmiques dans l'histoire qui ont fait que tout d'un coup, le monde bascule dans la folie. Mais en même temps qu'il bascule dans la folie, il y a tout un tas d'individus, d'êtres humains qui continuent leur métier d'homme, au sens le plus noble, et qui font un contrepoint, à défaut de faire un contrepoids, et qui finissent par l'emporter, en fait, quand on regarde les choses et l'histoire. À un moment donné, la bascule inverse se fait. Alors, je n'ai pas dit qu'on vit dans le meilleur des mondes, hein, loin s'en faut, mais il y a quand même des gens qui luttent constamment, au quotidien, pour faire barrage justement à cette banalité du mal. Et ils le font sans arrière-pensée, de manière parfaitement, j'allais dire naturelle, en tout cas humaine. Hein, voilà. Et ça, c'est important quand même de le dire. La banalité du bien existe. Et au cours de notre voyage, ma compagne et moi n'avons rencontré que des gens bienveillants, exclusivement.
Alors j'aimerais revenir sur une des questions précédentes. Vos deux romans font écho à des événements historiques majeurs. J'aurais voulu savoir si vous considérez que le rôle des auteurs actuellement est de transmettre et de partager une histoire qui est peut-être un peu trop souvent mise de côté.
Je pense que chacun aura une réponse assez intime sur est-ce que les auteurs ont un rôle véritable, en tout cas dans mon cas, il y a le plaisir de pouvoir faire partager des émotions. Je dirais que c'est ce qui prime en fait dans l'envie de partager une histoire, qu'elle puisse offrir des émotions. Si en plus elle permet de réfléchir sur le monde et d'avoir accès à d'autres pans d'histoire qu'autrement on n'aurait pas connu. Je trouve ça formidable, mais je crois que c'est l'idée que l'auteur aurait un rôle qui me questionne. Mais je pense que je vais te passer 2 minutes le micro, réfléchir un peu, puis peut-être je rebondirai après.
Je suis pas sûr d'avoir eu à l'esprit, je pense pas avoir eu l'idée de vouloir absolument transmettre quelque chose. En tant qu'enseignant, je suis prof de lettres, il y a toujours cette... c'est pas une volonté, c'est presque un état de nature, la transmission. Donc il n'y a pas de volonté manifeste. Avertir, je ne suis même pas sûr. Oui, transmettre une émotion, peut-être ouvrir des pistes de réflexion qui vont permettre au lecteur, après, de se faire une idée du monde. Je crois que c'est Voltaire qui disait « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font la moitié ». C'est vraiment une conception que je partage, parce que voilà, ouvrir des voies, et après le lecteur, je pense, est suffisamment intelligent pour trouver lui-même sa voie et peut-être revenir après sur le monde. Et je crois que c'est le lecteur en fait qui va ouvrir les ponts entre le passé et le présent. L'auteur peut-être peut suggérer éventuellement un passage à gué.
Non, ce qui m'intéresse, en fait, c'est toujours cette idée de mythe et de récit autour desquels on peut se réunir. Et donc, j'ai toujours cette phrase en tête de Wolfgang Sofsky, qui a écrit un essai qui s'intitule « Le traité de la violence » et qui... Alors, j'ai plus la citation exacte en tête parce que j'ai une très, très mauvaise mémoire. Mais globalement, ça dit « Les mythes sont là pour indiquer à l'histoire un autre chemin ». Et je pense que c'est ce qui, moi, en fait, m'appelle dans l'écriture et que j'espère aussi... Ce qui permet comme rencontre... je suis fatiguée, la phrase n'est pas très française. Bref, que ça puisse permettre une rencontre avec le lecteur via le livre autour de ce mythe et donc d'un possible autre chemin à une histoire qui serait en l'occurrence dénoncée ou en tout cas... Bref.
Du coup, voilà, une réflexion en entraîne une autre. En fait, j'allais dire de même. Dans mon roman, il y a un arrière-plan mythique, puisque le roman suit de plus ou moins loin, on va dire, certains passages de l'Odyssée. C'est pas pour rien s'il y a une citation en exergue. Et donc, tout à l'heure, quand vous avez présenté le roman, vous avez prononcé le mot épopée, mais vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire la parole. Hein, épos, c'est la parole en grec. Donc cette idée d'une transmission orale et d'une histoire qui vient finalement, qui vient de la nuit des temps. Et donc, mon personnage va suivre à peu de choses près les grandes étapes du périple d'Ulysse, parce que je voulais effectivement montrer un personnage qui va entrer dans l'inhumain, qui à un moment donné, comme Ulysse à la faveur d'une tempête, entre dans le monde de l'inhumain, et comment il va s'en sortir. Et finalement, le personnage, comme Ulysse, est un personnage polytropos. Le texte d'Homère emploie très fréquemment le mot polytropos, qui est un terme grec très difficile à traduire, mais en gros, ça renvoie au poulpe. C'est-à-dire le poulpe est capable d'abord de glisser dans tout, impossible à attraper, hein, il glisse dans les mains, très souple, donc capable de passer dans les trous, des infractuosités de rochers, de se cacher et de s'accrocher à n'importe quoi et de survivre. Et en plus, c'est un animal supérieurement intelligent, le poulpe, contrairement à ce qu'on pense. C'est sans doute un des animaux les plus intelligents de la planète. Et donc Ulysse et Polytropos, c'est mon personnage aussi. Et il y a une dimension mythique, effectivement, qui consiste à retrouver une part d'humanité universelle. Donc je crois que tous les romans qui abordent des points historiques précis, en fait, ont cette ouverture sur une transmission qui relève du mythe. Oui, je vois pas d'autre. C'était très juste ce que tu disais.
Moi, j'ai une question pour vous, Alain. Dans votre livre, vous décrivez des personnages qui sont en accord avec la nature, avec les animaux, et qui respectent tout ça. Est-ce que donc vous avez aussi beaucoup voyagé, vous avez rencontré des cultures différentes qui donc sûrement ont une vision du monde qui est différente de la nôtre. Est-ce que vous souhaitez faire partager ces visions du monde à nous qui avons une culture qui est assez industrielle, enfin quelque chose un peu comme ça, et donc apporter dans un monde contemporain peut-être plus de respect envers la nature. Est-ce que c'était un de vos buts?
Oui, un but, je ne sais pas s'il est. Là aussi, c'est consubstantiel, hein, c'est-à-dire là, c'est carrément ce que je suis et ce que j'ai vécu. C'est-à-dire en fait, quand on dort dehors pendant des mois, au milieu de nulle part. La vue change, l'ouïe aussi. On finit par voir et entendre des choses qu'on ne voyait plus ou qu'on n'entendait plus autrefois. Et puis on a une proximité avec les éléments. Hein. Si vous avez été attentif dans le roman, il y a le récit du voyage de Nava et d'Anton, hein, qui est un voyage à pied, qui est assez peu décrit. Mais en revanche, le processus, le changement profond qui s'opère dans le personnage de Nava se fait par la marche. Elle passe d'un intérêt marqué pour la culture humaine, pour les monuments, les églises, les mosquées, etc., à un intérêt pour les êtres humains. Et en dernier lieu, ce qui l'intéresse, c'est la nature brute et brutale, c'est-à-dire quand on est perdu au milieu d'un désert ou sur un glacier, on comprend quelle est notre véritable place. Et c'est une école de la modestie qui est très très forte, même parfois un peu dangereuse, parce que la nature est de toute façon plus forte que nous. Donc oui, il y a cette volonté sans doute de dire, allez voir dehors en fait, plutôt sortez, c'est dehors que ça se passe, plutôt que civilisation industrielle, je dirais, où c'est des citadins en fait, globalement, et une grande partie du monde vit en ville, et ce qui fait que ben, effectivement le monde va mal, la nature va mal, mais en fait la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, la nature. C'est quelque chose d'abstrait, dont parce qu'au mieux, qu'est-ce qu'on va connaître en France? La campagne. Voilà. Parfois la montagne. La montagne peut être l'endroit où, voilà, ici, ou surtout ici. Mais oui, c'était une façon de dire aller dehors et surtout aller doucement. Parce que les choses, on ne les voit pas quand on va vite. Il faut marcher ou faire du vélo, aller doucement. C'est pour ça que la bonne mesure pour prendre. Enfin, la vitesse de deux chevaux tirant une roulotte, c'est la parfaite vitesse pour voir le monde, en fait. Hein. Et la marche aussi, en fait.
Puis après, on va passer peut-être aussi la parole à d'autres, parce que...
Sur les carnets dans Avant Elle, est-ce que vous avez d'abord écrit les carnets et ensuite construit le récit autour de ça, ou l'inverse, ou est-ce que vous avez fait l'un avec l'autre et ça s'est bien enchaîné dans votre méthode d'écriture ?
Merci pour cette question. Alors, je crois que j'ai commencé par écrire les carnets et que la première chose du livre que j'ai écrite, c'est le Ernesto enfant. Donc, c'est ce qui est venu en premier lieu. Et donc, je savais que je voulais raconter l'histoire de ce personnage, mais je n'arrivais pas à trouver la forme. Et j'ai eu la chance de suivre un atelier d'écriture et le maître d'atelier qui s'appelle Bertrand Leclerc, qui est un auteur également, m'a dit, il faut que tu trouves un narrateur qui va te permettre de poser les questions que tu souhaites à ton personnage. Et en fait, Carmen est née comme ça. Et c'est vrai qu'ensuite, dans le processus d'écriture, du coup, il y a eu les carnets et elle intervenait un peu en réaction. Mais très vite, ça s'est mêlé. Et donc, il y a aussi eu des passages de Carmen qui se sont écrits et le carnet qui a répondu, etc. Donc, il y a eu les deux mouvements, en réalité.
Donc, dans vos séances d'écriture, vous avez, par exemple, vous pouviez écrire, on va dire, la narration au présent, et puis la minute d'après, écrire les carnets.
Oui, c'est ça. Okay. Voilà, c'était ma question.
Alors, est-ce que, pour qu'on puisse donner la parole un peu à tout le monde, est-ce que dans la salle, dans ceux qui ont... Dans les autres classes, donc puisque j'ai bien compris que vous étiez les porte-parole, mais malgré tout, si dans votre classe, il y en a qui veulent aussi poser des questions complémentaires, n'hésitez pas. Et dans les autres classes, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser ou des impressions sinon, on vous redonnera la parole. Mais oui. Est-ce que, comme je ne sais pas si on a assez de fil, est-ce que tu peux te mettre debout ou parler très fort parce que...
Merci de cette question. Évidemment, la conception du bien et du mal, de toute façon, dépend de la société dans laquelle on se trouve. Ce qui, à une époque donnée, considéré comme vertu, peut être à une autre considéré comme vice, et vice-versa, en fait. Donc oui, après, je crois quand même que c'est ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il a quand même une perception... je crois, presque intime, presque naturelle, de l'éthique. Très vite, en fait, un enfant arrive, par imprégnation, c'est très culturel, on est bien d'accord, mais un enfant arrive à percevoir à peu de choses près où se situe le bien et où se situe le mal. Après, de donner une définition du bien et du mal, au sens strict, ça me paraît effectivement fluctuant et difficile suivant les époques. Mais il y a quand même un fond commun à l'humanité. Et ce fond-là, il est universel parce que quand on se promène, justement, on se rend compte... Alors, il y a des petites variations. Il y a, quand on regarde notamment dans les peuples dits primitifs, pour le peu qu'il en reste, il y a des variations dans la conception du bien et du mal. Ce qui, dans nos sociétés, peut être considéré comme négatif, peut être considéré dans d'autres sociétés comme positif. Regardez comment l'Occident a regardé avec effarement, à un moment donné, l'anthropophagie. Sauf que, généralement, cette anthropophagie a mal été comprise. C'était pas de l'anthropophagie pour se nourrir. Ça relève du mythe. L'anthropophagie, elle était rituelle. La plupart du temps, c'était une façon de s'approprier ou le pouvoir de l'ennemi, ou son savoir, sa connaissance. C'était pas... Alors que l'Occident, en revanche, quand elle a recouru à l'anthropophagie, il y a eu plusieurs périodes de l'histoire, et j'en cite une, notamment à Mauthausen vers la fin du camp, il y a eu anthropophagie, c'était réellement pour se nourrir, il n'y avait aucune dimension ni culturelle, voilà, c'était purement pour survivre, voilà. Ou il y a eu d'autres circonstances comme celle-ci. Donc je ne suis pas capable, moi, de définir ce qu'est le bien et le mal, c'est quelque chose de très fluctuant, mais en revanche, je pense qu'il y a une perception du bien et du mal chez les hommes et qu'elle est commune, en fait. Et que, sauf dérèglement psychologique grave, nous savons quand nous faisons le bien et nous savons quand nous faisons le mal. Et ça ne nous empêche pas de nous mentir, hein, assez fréquemment. Ça, c'est un fait, de se faire croire que. Mais intimement, on sait, même si on ne l'avoue pas.
Alors, je répondrai, je crois, en déplaçant un tout petit peu la question. C'est-à-dire que ici, ce qui nous interroge dans la définition du bien et du mal, c'est en fait la question de l'humain et de l'inhumain. Et là, je pense qu'on s'accorderait tous à certaines définitions. Par exemple, l'être humain, c'est la seule espèce qui va tuer ses congénères. Et avec un degré de sophistication de violence qui est quand même assez étonnant. Et je pense que quelles que soient d'ailleurs les religions auxquelles on pourrait s'intéresser, elles sont toutes d'accord sur ce qui va définir l'humain et ce qui va définir l'inhumain. Et donc, la définition du bien et du mal, en tout cas dans le champ qui nous occupe aujourd'hui, voilà, je pense qu'on pourrait poser comme des définitions assez précises à l'aune de ce qui va fonder l'humain et ce qui va fonder l'inhumain.
Mais quand même, Johanna, dans votre livre, la question du bien et du mal, elle est centrale aussi, et y compris à travers justement le fait que vous vous mettiez à la place d'un bourreau. Et on voit bien que pour lui, ce que nous, on peut considérer comme faire le mal, c'est-à-dire torturer, pour lui, c'est aussi faire le bien, quelque part, même si, bon, il se pose des questions, c'est pas tout d'un bloc, évidemment, mais pour lui, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Il revendique une société comme ci, comme ça, et il faut éliminer un certain nombre de personnes, il faut faire le tri, etc. Et pour lui, torturer, c'est faire le bien.
Oui, mais pour torturer, en tout cas, c'était la théorie de Myriam Revaud-Allonne, qui a écrit un essai sur... ce que l'homme fait à l'homme, essaie sur le mal. Enfin, j'ai plus le titre exact. Et en gros, elle, sa théorie, c'est d'expliquer que pour être en mesure de pouvoir torturer, on devient inhumain. C'est-à-dire qu'il y a une suspension du jugement qui se fait, il y a une forme d'anesthésie, de façon à ce que l'homme puisse être en mesure de torturer, c'est-à-dire de considérer l'autre comme un objet, anonyme, un moins que rien, etc. Et c'est cette bascule-là, c'est-à-dire que oui, il a l'impression de faire le bien, mais à ce moment-là, est-il toujours un humain ? Et c'est pour ça que la question, elle est assez complexe, en fait, parce que selon où on regarde, la réponse doit être étayée, un peu plus précise. Et donc moi, ce qui m'intéresse plus que le bien ou le mal, c'est à partir de quel moment on sort de la sphère de l'humain ? Et c'est à ce moment-là que le mal, en effet, jaillit. Et donc même au nom du bien... Même au nom de cet impératif catégorique, on mobilisait d'ailleurs certains tortionnaires en disant « Mais non, mais j'obéissais aux lois. » C'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilisation, c'est des individus qui se mettent en place pour justifier l'injustifiable. Et donc, là, il y a une bascule. Et c'est cette bascule-là qui m'intéresse, quand on sort du champ de l'humain. Voilà.
Autre question ? Oui, vas-y. Oui,
du coup, j'avais une question par rapport...
Faut tenir le micro plus près, même Johanna. Bon, parfois, on ne vous entend pas très bien.
Pour rebondir sur le passage de l'humain à l'inhumain, on s'attache au personnage de Marco pendant longtemps et on accepte même ses actes au final, sauf au moment du viol où on ne comprend pas pourquoi et surtout on se met à le détester directement. Et pourquoi passer comme ça d'un personnage qu'on peut penser apprécier à plus du tout en fait.
Parce que je crois que tragiquement, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissaient très aimables et qui ont été des tortionnaires abominables. Donc je pense que j'avais ce désir de montrer ces deux facettes, ces deux visages. Donc je disais juste avant qu'il y a une suspension du jugement qui s'opère au moment de torturer. Et de même, juste après, ça peut disparaître. Et voilà, enfin, c'est... Ouais, c'était dans un souci de justesse, je pense, d'avoir cette bascule avec le personnage de Marcos. Mais j'ai pas parlé très bien.
Non, mais et ça peut être assez déstabilisant, je pense, pour le lecteur. Effectivement, on a tendance à s'identifier à la plupart des personnages. Certains on les déteste tout de suite, et puis d'autres on les aime tout de suite. Et c'est assez là aussi pas forcément courant dans un roman de se dire. On aime un personnage et d'un seul coup, on est obligé, parce que ce qu'il a fait est impardonnable, de le détester. Et ça, c'est assez, pour le lecteur, c'est assez fort en émotion. Une autre question ? Oui ? Est-ce que que tout le monde a entendu la question. Non, alors c'est donc quand Carmen apprend la vérité sur son père, sa mère, son passé, elle va très mal. Enfin, elle allait déjà pas très bien avant, mais là c'est encore pire. Et est-ce que donc la vérité accable encore plus Carmen, ou est-ce qu'au contraire la vérité, aussi terrible soit-elle, peut être libératrice?
Je vais faire une réponse tout en nuances. Je pense que ça dépend des contextes et ça dépend des profils. Par exemple,
le micro plus.
Parmi les enfants volés, il y a des enfants à qui on a révélé la vérité, qui ont fait un déni et qui ont complètement refoulé, qui n'ont jamais voulu savoir. Il y en a d'autres pour qui ça a été extrêmement libérateur de savoir. Donc, en l'occurrence, pour Carmen, d'abord ça l'accable et ensuite c'est libérateur. Ça va lui permettre de pouvoir continuer à vivre. Oui, je dirais que ça dépend des cas. Parfois, ça libère et parfois, peut-être mieux vaut ne pas connaître la vérité. Je pense que voilà, chacun, après, aura son opinion.
La question, en fait, c'est aussi, comme je le disais au début, est-ce qu'on peut sortir l'un pour l'autre? Est-ce qu'on peut sortir d'événements terribles comme ça qu'on a vécu? Est-ce qu'on est obligé de vivre avec, de composer? Est-ce qu'on arrive à passer par-dessus et vivre autre chose? Ou est-ce que il faut composer avec et en tirer quelque chose finalement aussi peut-être.
Tu parlais de résilience tout à l'heure. Je crois qu'on est en plein dedans. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Peut-être le définir pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Je ne sais pas si tout le monde.
La résilience, c'est un peu les stratégies qu'on va mettre en place de façon à retrouver une forme d'apaisement avec sa propre histoire. Enfin, je le définirais comme ça, mais je vous laisse compléter s'il en manque des morceaux. Donc c'est Boris Cyrulnik, on a beaucoup parlé, qui a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus. Dans le cas de Carmen, donc il y a des stratégies. En fait, le fait qu'elle soit borderline au départ est aussi une stratégie de survie finalement, qui va évoluer à mesure qu'elle va découvrir d'autres pans de son histoire. Et là, je vais encore passer le micro à Alain, le temps de réfléchir à ce que je vais compléter ensuite.
Alors, je rebondis sur la résilience au sens propre. Au départ, la résilience, c'est la résistance des métaux à la rupture. Voilà. Et donc, Cyrulnik s'est intéressé effectivement aux individus, aux êtres humains qui ont vécu des situations extrêmes, notamment, puisque lui l'a vécu aussi, a vécu des situations extrêmes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un individu rompt et qu'est-ce qui fait qu'il ne rompt pas? Voilà. Et donc, la résilience, c'est cette capacité à ne pas rompre. Et souvent, pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait tuteur en résilience. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un, souvent, qui va indiquer une voie, simplement une voie, hein, pas imposer du tout, simplement indiquer une voie. C'est un peu ce qui arrive, en tout cas, à mon personnage. Il a un certain nombre de tuteurs en résilience, aussi bien Jacques que Simon Wertheimer, que Katok, qui lui montre justement, on en parlait tout à l'heure, les limites de l'humain, mais aussi les limites de l'inhumain. Où faut-il naviguer pour rester un homme?
Voilà. La littérature, elle peut aussi aider à être résiliente. Elle peut aussi aider à... Et c'est ça qui est intéressant aussi dans vos romans respectifs. C'est que vous nous montrez des voies, libre à nous de les emprunter ou pas, mais la littérature, alors, sans rentrer dans le côté bibliothérapie, qui est maintenant une discipline qui existe, effectivement, la littérature, elle est aussi parfois dans cette voie-là, un tuteur.
Et juste pour compléter, du coup, parce que mon cerveau continue de voyager après, ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler de la résilience du bourreau. Alors, c'est un peu provocateur dit comme ça, mais finalement, Ernesto, en livrant ses carnets post-mortem, est aussi dans un acte de résilience. Et c'est ces deux facettes-là, en tout cas, qui m'intéressaient dans le livre.
Oui, c'est une résilience, effectivement, post-mortem, dans le sens où toute sa vie, il n'a jamais réussi. Quand même, à dire à sa fille, à avouer quelque chose et à lui raconter son histoire. Donc, c'est une résilience quand même assez... Ouais, c'est ça. Je veux pas le dire, mais je le dirai quand même. Autre question, remarque? Des choses que vous avez aimées dans le livre? Ça peut être aussi pas forcément des questions, mais voilà, ce que vous avez aimé dans les romans ou pas aimé, des choses qui ont pu vous déranger aussi? Il y en a sûrement.
Alain, dans votre livre, c'est un livre qui est très poétique. Et est-ce que vous, quand vous avez écrit ce livre, c'est venu instinctivement ou il y a eu un peu cette effort d'essayer de faire quelque chose de très poétique, ou c'est simplement la poésie de livres et d'histoires qui fait que... Enfin,
plein de choses à la fois, en fait. J'ai commencé à écrire assez jeune et j'ai commencé par la poésie. Avant de vouloir écrire des textes en prose long, j'ai commencé par la poésie. J'ai été fortement marqué par un professeur de 4e, 3e qui avait mis un peu la charrue avant les bœufs, mais elle avait raison, qui nous a initiés à la poésie du 19e siècle en 4e et de manière assez approfondie. Et j'ai rencontré Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Et donc j'ai toujours eu cet esprit rimbaldien de l'errance. Je suis un homme de l'aube, voilà, du matin plus que du soir, parce que c'est là que tout commence, en fait, au moment où le soleil se lève. Et en quelque sorte, mon roman est né de l'aube, puisque la seule chose qu'il y avait à faire avec un homme, c'était ça, regarder le soleil se lever sur la mer. Et puis, ça tient aux circonstances même de l'écriture, c'est-à-dire que je n'avais rien pour écrire, je veux dire pour dactylographier mon texte, pour employer un mot qui a disparu. Donc j'ai écrit sur un téléphone portable. Or, sur un téléphone portable, la vision d'ensemble n'existe pas. En revanche, on voit très très bien la phrase et on voit très très bien, à la limite, le paragraphe, à condition qu'il soit petit, ce qui permet assez facilement de travailler le rythme, voire la rime. Hein, donc à l'oreille, hein, c'est un texte qui est fait pour être lu à haute voix. On entend à ce moment-là la musique des mots, mais ça tient encore une fois à la façon aussi dont le roman a été écrit. C'était assez particulier d'écrire sur un téléphone portable, mais du coup, je continue.
Ça, c'est assez intéressant parce que c'est une question qu'on n'aborde pas souvent avec les auteurs. Alors, on demande est-ce qu'ils ont des rituels d'écriture en termes de posture, en termes de moments dans la journée, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est par période, etc. Mais la question du matériel et de ce qu'elle induit sur le type d'écriture, effectivement, c'est pas la même chose que avant d'écrire avec une plume, un stylo, ensuite à la machine à écrire, avec en plus sans doute une rythmique avec les touches des machines, surtout les vieilles, qui font vraiment tac tac tac, et donc ça doit aussi, quand l'écriture est lancée, induire un certain rythme de phrase. Et là, le rythme de l'écriture avec le téléphone portable, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Autre question, oui.
Alors moi j'aurais eu une question sur le titre de Avant elle. C'est une question qui a fait beaucoup débat au sein de notre classe quand on a étudié l'œuvre. Donc on a imaginé que le elle de Avant elle pouvait représenter la mère de Carmen ou alors la dictature. On aurait aimé avoir votre ressenti sur la question et savoir quelle est la réelle signification de ce titre.
Bon, je vais vous décevoir avec la réponse, mais c'est le parti pris est que ce titre soit évidemment polysémique. Donc le « elle », ça peut être la dictature, ça peut être Carmen, ça peut aussi être la mère. Bref, on peut le décliner selon ce qui fait du sens. Et j'aime bien l'idée d'ailleurs que chacun retienne une définition qui fasse du sens pour lui ou pour elle. Ensuite, moi j'ai beaucoup de mal avec les titres. C'est un exercice qui est... Il y a des auteurs pour qui le titre s'impose tout de suite. Je ne sais pas comment c'est, toi Alain. Moi, pas du tout. Le titre, c'est vraiment un exercice compliqué. Et donc là, l'idée, c'était d'être sur quelque chose de simple et de mystérieux. Voilà, donc c'était ça l'intention de départ.
Comment, Alain, comment est-ce qu'on est passé de le truc à avant que...
Alors en fait, le manuscrit initial s'appelait « Le galop du centaure ». Hein. C'était le titre de la nouvelle de 1990. Le mot « centaure » est cité dans le roman et renvoie en fait à la course de chevaux contre MacGregor. Le titre ne plaisait pas à mon éditeur. Et donc il m'en a demandé d'autres, mais comme ce titre-là, je le traînais depuis 30 ans, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai séché hein, complètement. Et donc il y a eu une première proposition... qui était une citation de Keats, Notre nom est écrit sur l'eau, qui renvoyait à la scène du Gange, hein, le moment où Anton littéralement dépose le nom des morts sur la surface du Gange. Et comme par ailleurs Keats était cité dans le roman, ce titre, je l'aimais beaucoup, pas de chance, il était déjà pris. Il avait été pris par un romancier assez récemment, donc le service juridique de Flammarion ne s'est pas amusé à risquer un titre qui aurait pu faire débat. Et donc, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, hein, très clairement. Ce n'est même pas mon éditeur, en fait. C'est la directrice des éditions Autrement qui a trouvé « Avant que le monde ne se ferme ». Alors, il ne vient pas de nulle part puisqu'il est formulé dans le roman à deux reprises. Donc, voilà. Et là, par contre, les choses m'ont paru évidentes. Hein. Quand on m'a dit « Avant que le monde se ferme », pas de problème. Effectivement, et en plus, ça renvoyait à l'actualité qui, à l'époque, était simplement celle de la pandémie. Donc oui, on a trouvé le... C'était pas une volonté, comment dire, d'accrocher, justement, de s'accrocher à l'actualité. Hein. Non, je pense que le titre est juste compte tenu du contenu. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé.
Donc ceux qui voulaient un livre sur la pandémie, en voyant le titre, vont être très déçus.
Voilà.
Autre question ?
Vous parliez de vos éditeurs. Comment ça s'est passé, vous, l'édition, surtout que c'est votre premier livre? Est-ce que vous avez attendu 6 mois, 1 an avant d'avoir une réponse, ou ça s'est venu assez rapidement?
Comment ça se passe, ça? Voilà. Vous avez quoi, envoyé vos manuscrits par la poste? Vous connaissiez des éditeurs, l'un et l'autre? Comment c'est passé?
Alors, je ne connaissais pas d'éditeur. J'ai envoyé par la poste. J'ai eu un premier retour assez rapide d'une maison d'édition que je ne nomme volontairement pas, qui était très enthousiaste sur le livre. Et puis, ensuite, les livres, ils passent en comité. Donc là, en l'occurrence, il y avait eu un veto d'une personne. Donc ça ne s'est pas fait. Et cette éditrice était tellement embarrassée, ça lui était jamais arrivé, que en fait, c'est elle qui a donné le manuscrit à Héloïse d'Ormesson, qui a eu un coup de cœur pour le livre et donc a décidé de l'éditer. Donc c'est quand même amusant. Voilà. Donc ça a commencé par la poste et ça s'est terminé un peu autrement.
Alors moi, envoyer un manuscrit depuis la Thaïlande ou l'Islande, la Patagonie, c'était impossible. Donc j'ai eu une sorte de cheval de Troie, on va dire. Quelqu'un qui s'est occupé d'envoyer mon manuscrit, plutôt d'ailleurs en forme numérique qu'en forme papier. Alors j'ai eu un peu la même aventure que Johanna, c'est-à-dire j'ai reçu une réponse très favorable d'une éditrice dont je tairai le nom aussi. Et comme toi, en fait, c'est en l'occurrence la directrice d'édition qui a mis son veto, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Même si après je l'ai croisée, qu'elle m'a dit qu'elle regrettait, mais je crois que c'était purement... de la courtoisie. Hein.
Voilà. Et maintenant, elle s'en mord les doigts.
Et le manuscrit a circulé dans 3 maisons d'édition. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, à cause des festivals, rencontres, etc., j'ai rencontré tous les éditeurs ou éditrices qui avaient eu mon manuscrit entre les mains, ce qui fait que j'ai pu avoir leur son de cloche. C'était positif, mais il y avait toujours une raison qui faisait que non. Voilà. À un moment donné, le manuscrit est passé des éditions... Acte Sud au Rouerc, parce que Acte Sud ne voulait pas, mais il ne voulait pas non plus perdre le manuscrit, donc il voulait le faire circuler au Rouerc, qui est une filiale en fait. Et entre-temps, la réponse des éditions Autrement est arrivée. Et là, ça a été un concours de circonstances heureux, c'est-à-dire qu'en fait, mon éditeur venait juste d'arriver dans les éditions Autrement. Il cherchait désespérément un manuscrit français pour la rentrée. Il m'a répondu en 48 heures en fait. Voilà.
C'est assez amusant parce qu'il y a quand même une famille, puisque Alexandre Civico est aussi écrivain aux éditions Actes Sud.
Absolument.
Et du coup, il y a quand même une.
Et Transfuge de l'Inculte.
Voilà,
des éditions L'Inculte. On sait. Alors, pour aller plus loin dans le travail avec l'éditeur, je crois que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait plus ou moins une même vision du monde. Et ça a fonctionné très très bien tout de suite. Alors je précise qu'en fait, je n'ai rencontré mon éditeur qu'après la sortie du livre. Hein, en fait, hein. Je ne l'ai pas rencontré avant, hein, puisque j'étais en Patagonie. Donc on discutait, on ne pouvait même pas avoir d'image parce qu'il n'y avait pas assez de réseau. Ou alors c'était par mail. Mais bon. Ça s'est fait et le travail était, à mon sens, peut-être un peu trop rapide. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse positive est arrivée fin janvier 2021. En avril, le livre était imprimé. Et en fait, maintenant, si c'était à refaire, j'exigerais en quelque sorte au moins 3 mois supplémentaires de recul, en fait. Parce qu'il faut prendre le temps... De, de revoir un second ou un troisième ou un quatrième jet. Il faut toujours laisser du temps pour essayer d'avoir un regard neuf sur les choses, même si ça relève de l'impossible, en fait, hein, c'est mission impossible. On n'est jamais totalement neutre. Mais avec le temps, quand même, on arrive à voir les choses de manière un petit peu plus objective. Donc j'ai trouvé que c'était le travail d'édition, mais c'était les circonstances qui faisaient que... a été un peu trop rapide. Voilà, la prochaine fois, on ira beaucoup plus lentement.
Mais alors, ça, on peut peut-être, parce que c'est intéressant aussi, et tout le monde ne sait peut-être pas comment ça se passe avec un éditeur qui, effectivement, ne se contente pas de dire « ce livre m'intéresse et je le publie ». Il y a aussi, alors, il peut y avoir plusieurs personnes, mais un directeur de collection ou autre, mais qu'on appelle un éditeur au sens où celui qui va travailler ou retravailler le texte avec l'écrivain, donc par rapport à ce qui vous concerne, l'un et l'autre, comment ça s'est passé avec les gens qui vous ont fait travailler ou retravailler, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de retravailler et comment on prend ça? On prend ça de façon humble en se disant c'est mon premier roman, ou au contraire, parce que je sais que ça dépend des écrivains, on se dit c'est mon texte, je l'ai réfléchi, hors de question de bouger la moindre virgule, le moindre point, etc. Voilà, comment est-ce que ça s'est joué pour vous deux?
Alors pour moi, comme par ailleurs, mon métier c'est d'être scénariste. J'ai l'habitude, comment dire, des retours et de réécrire. Donc je me vexe pas facilement, on va dire, d'un retour. Je sais qu'écrire c'est réécrire perpétuellement. Ensuite sur ce manuscrit là, l'éditrice, voilà, pour elle le texte était déjà assez abouti. Il y avait un travail sur le texte, mais qui restait assez marginal en fait. Donc il y a, de manière très concrète, il y a des bulles de révision Word sur le manuscrit avec plein de petites annotations. Et ensuite, moi j'étais très libre d'en intégrer certaines ou de pas en intégrer, enfin, ou de pas les intégrer. Et après sur certaines, on pouvait en discuter parce que bah, voilà, je me questionnais ou je comprenais pas l'intention qui se cachait derrière une note. Et ça c'est aussi l'expérience, je dirais, de scénariste, c'est que parfois on est gêné par quelque chose, mais peut-être que la résolution du problème n'est pas la solution qui est proposée. Et donc c'est toujours intéressant en fait de savoir qu'est-ce qui a gêné l'éditrice, le lecteur, parce que peut-être que la solution préconisée n'est pas à cet endroit mais ailleurs. Et donc on avait ce dialogue là selon les notes. Et donc il y a eu comme ça, je dirais, deux, trois échanges. Et ensuite c'était bon pour moi. Voilà.
Et alors, je rebondis aussi, puisque donc effectivement, vous êtes scénariste à la base. Est-ce que on suppose qu'il y a une différence, évidemment, entre l'écriture d'un scénario et l'écriture d'un roman. Et du coup, de quel ordre est cette différence? Est-ce qu'il a fallu peut-être même se déshabituer, je ne sais pas, de certains traits d'habitude de la scénariste pour écrire le roman?
Oui, alors ce que je disais à Alain en arrivant, j'ai eu le sentiment de devoir désapprendre à écrire pour écrire, enfin désapprendre à écrire avec mes réflexes de scénariste pour pouvoir écrire ce livre. Donc dans un premier temps, ce qui a été difficile pour moi, c'était de lâcher prise de façon à vraiment laisser aller l'écriture. Mais dans un second temps, la boîte à outils du scénariste a été très utile. Pour justement créer ces effets de dérangement que vous avez pu ressentir à certains moments dans la lecture, mais aussi pour qu'on puisse tenir la distance, c'est-à-dire que les moments de torture, par exemple, ces passages-là sont durs à lire, donc c'est important de pouvoir aménager des soupapes derrière. Enfin, après, il y a plein de petites stratégies et d'outils que j'ai pu mobiliser pour essayer de parvenir à une forme d'équilibre dans l'écriture, et là, ça m'a été assez utile. Mais je précise quand même que j'écris surtout pour la jeunesse, donc on est vraiment dans un autre type de registre.
Là, c'est effectivement pas du tout pareil. Alors Alain, sur quoi est-ce que apporter le travail, qu'est-ce qui vous a été demandé de modifier Puis en plus, c'est quand même assez étonnant, vous dites que vous avez porté le livre pendant 30 ans, qu'il a fait jusqu'à 600 ou 700 pages, et donc malgré tout, au bout de ces 30 ans, au bout de ces 600 ou 700 pages réécrites, il y a encore pour vous besoin de, il y aurait eu encore besoin de retravailler encore?
Je pense qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à faire mon deuil de ce roman et de me dire que c'était fini. Quand le manuscrit est arrivé chez moi par la porte, enfin le manuscrit, le livre est arrivé chez moi, je n'arrivais pas à l'ouvrir en fait. Et quand je l'ouvrais, je lisais, je me disais oh là là, il faudrait réécrire ça, c'est mauvais. Donc j'étais pas totalement satisfait. Mais parce que en fait, je crois que mon problème c'était de ne jamais finir les choses. Voilà, donc c'était la première fois que là, même si là j'ai encore envie de retoucher certaines choses. Hein. Alors après le travail avec l'éditeur, je pense qu'un bon éditeur, mais je crois qu'ils le sont pour la plupart, hein, il sinon il ne ferait pas ce métier. Il suggère plus qu'il n'impose. Donc voilà, il pointe du doigt des incohérences. Et comme le disait Johanna, la solution n'est pas forcément celle qui est préconisée sur l'instant. Mais ça enclenche une réflexion de la part de l'auteur qui se relie et qui effectivement trouve parfois la solution en aval ou en amont, ça dépend des fois, pour essayer d'équilibrer les choses. Alors pour être parfaitement honnête, mon éditeur a mis un veto quand même, très clairement, enfin un veto. Il m'a dit ça me gêne. D'autres s'y sont essayés. Pour tout vous dire, en fait, le moment où Anton arrive à Auschwitz, dans la version originale, il entrait dans la chambre à gaz. Il entrait dans la chambre à gaz, on refermait les portes, et c'était à ce moment-là que l'officiellement venait le chercher parce qu'il lui avait dit qu'il était dresseur de chevaux. Et donc Alexandre Civico, mon éditeur, m'a dit il y a beaucoup d'auteurs qui se sont amusés à ça, avec plus ou moins de réussite. Alors ça signifie peut-être que je n'avais pas tellement réussi le truc, hein. C'est bien possible. Mais surtout, en fait, ça n'apportait rien. En fait, après, je me suis relu, j'ai retranché pour voir ce que ça donnait. Et en fait, je me suis dit, effectivement, ça ne change rien à l'affaire. Donc, si on peut le retrancher sans avoir mal au cœur, c'est que ça n'était pas utile. Voilà. Après, il y a eu 2-3 passages où il m'a dit, bon, là, ton personnage vient de perdre son cheval, ça va un peu vite. Voilà, c'est quand même un moment important, donc développe-le. Et il y a eu, pour le personnage de Katok, je pense, un travail de d'épaississement, on va dire, de la silhouette du personnage, parce que ça reste malgré tout une silhouette. Mais pour le coup, dans la version originale, il était vraiment très fantomatique. Et donc, je l'ai un peu développé. Voilà, parce qu'il m'a dit, soit tu le fais disparaître, soit tu le développes. Et comme c'est difficile de tuer un personnage, j'ai préféré le développer.
Au fond, on pourrait se demander s'il n'y a pas un parallèle entre vous et Ulysse aussi. Ulysse qui part donc de Troie et puis qui va... Bon, c'est les dieux qui vont un peu faire qu'il ne va pas rentrer tout de suite chez lui, mais on peut même se demander à un moment si Ulysse a vraiment envie de rentrer à Ithaque. Et vous, on peut se demander si vous aviez vraiment envie de finir le voyage de ce livre, vraiment envie de l'arrêter, en fait.
Oui, parce que dans une certaine mesure, c'était arrêté en quelque sorte mon voyage aussi, hein, le voyage réel. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'est pas facile. Ça ne se voit pas. Mais l'immobilité me pose problème maintenant. Les murs me posent problème. Le bruit me pose problème. Donc, le retour en France a été assez difficile, même si j'aime beaucoup les rencontres. Mais voilà, on est entre des murs. Ça me pose effectivement beaucoup de problèmes. Oui, je crois que j'aime beaucoup l'Ulysse de Giono, qui est un menteur qui traîne les bars et qui raconte tout un tas d'histoires. En fait, il n'y a pas de survivant dans l'épopée d'Ulysse. Il est le seul survivant, donc on n'a que sa parole, hein, et qu'il raconte son histoire au roi des Phéaciens, à la cour des Phéaciens, mais après tout, ça n'est peut-être que mensonge, comme le roman.
Et pour vous, Johanna, comment est-ce que vous vous êtes dit « ça y est, c'est fini » Est-ce que vous saviez quand c'était fini? Est-ce qu'on sait quand c'est fini un roman?
J'imagine que ça dépend des histoires. Pour celle-ci, j'ai su que c'était fini quand je pouvais plus lire une seule ligne du manuscrit, parce que je n'en pouvais plus. J'ai su que c'était fini. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une... C'est dans un des livres d'Alice Zeniter, je crois qu'il y a cette phrase avant qui dit « Lorsqu'on a envie juste de brûler le manuscrit parce qu'on ne peut plus en lire une seule ligne, c'est signe que c'est fini. » Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Donc, oui, c'est ça. J'ai beaucoup réécrit parce qu'à l'origine, le livre devait sortir à la rentrée littéraire 2020. Et donc, il y a eu le Covid. Et donc, l'éditrice a décidé de le sortir plutôt en janvier 2021, ce qui m'a laissé quelques mois de répit pour retravailler et qui ont été très salutaires parce qu'effectivement, le meilleur ami de l'auteur, c'est le temps de pouvoir laisser reposer le texte pour y revenir avec ce regard neutre dont tu parlais. Et donc, j'ai beaucoup retravaillé de manière assez dense à ce moment-là. Et donc, effectivement, c'était très dense. Donc, il y a eu un moment où je ne pouvais plus et c'était signe que c'était vraiment fini. Voilà.
Autre question ? Remarque.
Oui.
Alors, là-bas, puis après, madame. Oui ? Bien fort, parce qu'on ne t'entend pas.
Alors, je ne vous ai pas du tout entendu.
Donc, vous avez dit que vous avez beaucoup lu votre roman, mais au final, est-ce que vous l'aimez, c'est ça?
Je ne saurais pas répondre, je ne l'ai pas relu depuis très longtemps. Ce qui me reste en fait de ce livre, ce sont les personnages. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce sont des êtres qui existent vraiment, qui ont existé. Et donc il me reste ça. Après, il y a tellement de livres à lire dans lesquels plonger que je ne suis pas sûre que j'ai peur d'avoir peur en le relisant.
Alain, peut-être tu veux... j'ai déjà un peu répondu à la question, mais par contre, en revanche, je suis très satisfait de comment mon livre est lu. Même si les retours ne sont pas toujours forcément entièrement positifs, j'aime beaucoup voilà, ce retour. Et là, tout d'un coup, le livre cesse d'appartenir à son auteur, prend une autre dimension. Les gens voient des choses qu'on n'avait pas forcément inscrites noir sur blanc, mais, voilà, ou des choses qu'on aurait aimé qu'ils voient et puis ils ne les voient pas, et inversement. Donc, j'aime bien cette autre vie du livre qui du coup ne m'appartient plus maintenant, qui appartient au lecteur. C'est finalement la partie la plus intéressante.
C'est vrai que le livre est fait aussi pour être lu et partagé.
Je dirais, pour répondre du coup à votre question, en fait c'est un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'en fait il fait son chemin, il fait sa vie, donc il y a une espèce d'amour en fait inconditionnel, absolument pas objectif, qui fait que bon voilà, il est là, il fait son chemin et c'est ça qui est assez beau.
Et à quel moment le livre fait sa crise d'ado?
Je sais pas.
Madame. Je crois qu'il y avait une question. Je crois qu'il y avait même une question là-dessus, hein. Non? Est-ce que...
Oui, clairement. Je ne sais pas si c'est à Music Box que vous pensez ou... Oui, il y a celui-ci aussi, ouais. Absolument. Et bah, ça fait partie des deux films qui ont été un peu des films références pendant l'écriture. Et oui, il y a... En fait, après, c'est un matériel inconscient. Hier, il y a Clara Dupont-Mono, lors du vernissage, qui parlait en fait, des échos et d'une espèce de balle qu'on se passe entre auteurs qui nourrit et qui inspire de manière plus ou moins consciente, et donc clairement le cinéma en fait partie.
Et du coup, vous dites que vous êtes un peu incapable de reprendre votre livre, mais est-ce que vous êtes capable de le reprendre du coup sous une autre forme et à ce moment-là scénaristique pour en faire une adaptation? Et c'est vrai que quand je l'ai vu un peu sous une forme de mini-série. Et donc, du coup, est-ce que ça vous intéresserait, vous, de le faire sous un autre format, en fait?
Alors, à cet instant T, il se peut que je change d'avis si un jour ça se présente. Je crois que ce qui m'intéresserait dans l'adaptation du livre, c'est de voir ce que quelqu'un d'autre en ferait. Et donc, parce que pour moi, l'adaptation, c'est toujours une forme de réécriture. Et du coup, ça m'intéresserait de voir voilà, le point de vue qu'un cinéaste ou qu'un autre scénariste injecterait dans une adaptation. Donc je ne suis pas sûre que j'aurais envie en fait, de co-scénariser ou de scénariser une éventuelle adaptation. Mais voilà, comme on peut changer d'avis, si un jour ça se présente, je me poserai la question. Mais ouais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'échange en fait, et de voir ce que cette histoire pourrait devenir en changeant de médium et en changeant voilà, de main aussi.
Question aussi pour Alain, est-ce que vous le voyez éventuellement, parce qu'il y a aussi une écriture très visuelle, il y a tous ces paysages, etc. Alors ce serait sans doute un film à gros budget.
Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu, hein, parce que pensez bien que mon éditeur a fait circuler dans les mains de certains scénaristes qui ont répondu, oulala, ça va être un film très cher. Et visiblement, le cinéma français, pour l'instant, ne me paraît pas dans cette optique-là. Faut voir. Mais oui... c'est un texte visuel, je pense que le second le sera encore davantage, mais c'est lié encore une fois à ma situation du dehors, on va dire. Mais oui, pourquoi pas, après, effectivement, il y aura un gros travail d'adaptation, notamment de construction des dialogues. Voilà. Mmh. Mais ce que je préfère, laisser à quelqu'un, un professionnel, voilà. Je ne me sens pas capable de le faire, en fait.
Et est-ce que, pour rebondir aussi sur la question qui a été posée à Johanna, est-ce qu'il y a des films sur l'histoire des Tziganes, justement?
Alors, des films, non. Je n'ai pas de films qui m'ont inspiré. C'est davantage les spectacles de Bartabas, par exemple, et ma connaissance personnelle, en fait, du monde Tzigane, c'est-à-dire le temps que j'ai pu passer dans les camps. Voilà, et à enseigner à des Tziganes qui... qui m'ont ouvert à cette culture-là, et puis une part totalement mythique et fantasmée qui vient de l'enfance, puisque j'habitais au bord d'une nationale où deux fois l'an passaient des convois de tziganes, encore à l'époque tirés par des chevaux. Les enfants couraient à côté, n'allaient pas trop à l'école quand ils allaient. Tout ce qui nous était interdit leur était autorisé. Donc j'enviais beaucoup cette liberté-là, et pour moi, ça a été... j'ai eu cette envie, en fait, je crois profondément, de devenir un tzigane. Et je le suis devenu dans une certaine mesure.
Alors justement, c'est intéressant, parce que c'est une question qu'on peut poser aux deux auteurs. C'est la question de la part de la fiction et de la réalité, puisque l'un et l'autre, et plus encore Johanna, vous vous appuyez sur une histoire réelle. Du coup, qu'est-ce qu'on s'autorise pour la fiction? Est-ce que les personnages doivent se couler dans l'histoire avec un grand H? Ou est-ce que, parce que Alain, je sais que vous avez aussi... fantasmer en partie cette histoire des tziganes, leur folklore, etc. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Donc, est-ce qu'on s'autorise aussi, pour les besoins du roman, est-ce que c'est un roman avant tout, c'est un roman avant tout, est-ce qu'on s'autorise aussi des largesses?
En tout cas, je me le suis autorisé, hein, très nettement. J'ai parlé tout à l'heure des déplacements. Je me suis autorisé aussi quelques largesses concernant la langue, parce qu'en fait... parler d'une langue tzigane unique, c'est une aberration. En réalité, il y a une multitude de dialectes qui se sont mélangés aux langues des terres, si tant est que ce soit vraiment des terres d'accueil. Donc, j'ai figé une langue, en quelque sorte, pour donner à entendre une certaine langue tzigane, certaines racines du sanskrit, en fait. Après, je me suis autorisé des libertés concernant les déplacements des tziganes, ça c'était évident. J'ai eu un conseiller historique qui était Christian Ingrao, qui m'a dit là, tes placements de tziganes sont impossibles, mais ça ne fait rien, c'est un roman, en fait, voilà. Donc c'est un roman, on m'a parfois reproché, on a parfois reproché à ce roman d'être romanesque, en fait, ce qui est un peu amusant, mais je comprends ce qu'on voulait me dire parfaitement. C'est vrai qu'il y a une forme de réalisme historique. Toute la partie sur les camps et notamment sur le ghetto de Lodz est fortement documentée. Le personnage de Chaim Rukovski est un personnage historique très controversé, dont il est très difficile de faire un portrait objectif et juste, comme tous les personnages qui sont ni bourreaux ni victimes, mais quelque chose entre les deux. C'est le cas de Chaim Rukovski. Hein, voilà. Qu'est-ce que je me suis autorisé d'autre? J'ai effacé une réalité sociale, en fait, la violence intrafamiliale, la condition assez terrible des femmes. Je l'ai effacé parce que je trouvais que l'arrière-plan historique des camps, c'était suffisant. Donc oui, mes tziganes sont des tziganes très poétiques, un peu comme les tziganes qu'on trouve dans la poésie du 19e siècle. Voilà, bigarrés, en perpétuel mouvement, joyeux. Oui, je suis dans une forme de mythe, mais c'était une façon, en fait, de proposer une autre vision du monde, simplement.
Ouais, je vais répondre très rapidement. La fiction, pour moi, était nécessaire dans le sens où ce qui m'importait, c'était la justesse de l'émotion que je pouvais essayer de transmettre à travers l'histoire. C'est le fameux... le vrai peut quelquefois ne pas être vraisemblable. Donc clairement, il y a des partis pris dues à la fiction. Par contre, j'avais le souci d'être très juste au niveau historique. Et donc, comme toi, j'ai consulté un professeur spécialisé de l'histoire contemporaine de l'Argentine qui s'appelle Olivier Compagnon et qui enseigne à l'IHEAL. Et donc, qui m'a donné des éléments, qui m'a fait part même des dissensus entre historiens sur cette période historique. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, j'avais vraiment le souci d'être très juste sur l'arrière-plan de la grande histoire. Voilà.
Moi, j'avais une question sur l'écriture, par exemple, de prochains livres. Parce que, donc, on passe du temps à écrire un livre, il sort de nos tripes. Comment on s'arrête et on passe à autre chose, entre guillemets, enfin, comment, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse du livre qu'on a écrit pour en entamer un nouveau? Comment ça se passe? Quel est le processus?
Alors, dans mon cas, je crois qu'on... Oui. Je pense qu'en fait, je suis travaillée par des obsessions qui, de manière très inconsciente, vont se retrouver en fait dans un second livre. Donc, ce qui m'intéresse sont toujours des personnages un peu écorchés, assez vulnérables, qui vont essayer de trouver soit une rédemption, soit une forme de résilience. Donc, je sais qu'il y aura ça dans le prochain livre. Après, c'est plus des désirs d'explorer aussi du nouveau. Par exemple, moi, j'ai très envie d'essayer d'écrire un thriller. Donc, il y a déjà une dimension d'enquête dans ce livre-là. Et c'est vrai que j'ai envie d'explorer ça, de voir, de le pousser plus loin. Alors, après, est-ce que ce sera un deuxième livre ou juste un laboratoire personnel ? J'en sais rien. Mais... ouais, c'est l'envie aussi de créer de nouveaux personnages, voilà, de nouvelles rencontres, et c'est ça qui emporte et qui crée un nouveau voyage. Donc, mais voilà. Mais...
Et à la fois entre l'enquêteur et l'historien, il y a un lien. Hein. Tous les deux recherchent le passé.
Oui, et je pense que la synthèse de ça, c'est ce qui m'habite, c'est le devoir de mémoire, et donc ça prend des formes multiples. Mais en fait, c'est tout à l'heure, vous parliez du rôle de l'auteur. C'est, dans mon cas, ce n'est pas tant le rôle que je me sens investie vis-à-vis de ma propre histoire, d'un devoir de mémoire. Et je pense qu'il s'incarne, en fait, dans ces histoires-là.
Bon. le second roman. Alors moi, on m'a dit, et j'ai assez souvent entendu, en fait, que c'était le plus difficile à écrire, en fait. Et qu'il y avait deux écueils à éviter. Sortir en fait un vieux manuscrit qu'on a écrit avant le premier, ce qui est assez fréquent en fait, hein. Et ou alors faire une pâle copie du premier, voilà. Et là, j'ai testé quelque chose que je n'avais jamais vécu en fait, puisque ce livre est achevé, mais il continue sa vie, et je crois que c'est très difficile de vraiment se plonger dans un second roman tant qu'on doit défendre le premier. Alors j'ai eu un petit moment, une parenthèse entre janvier et mars, où j'étais moins sollicité, où j'ai pu écrire, mais dès que j'ai repris les rencontres en librairie ou ailleurs, qu'il m'a fallu à nouveau parler de ce premier roman, j'ai oublié le second. Voilà. Et donc, je crois qu'il va me falloir un petit temps. Et puis le
pas mouvement... 30 ans quand même.
Non, 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 pas 30 ans. Non, non, j'ai déjà commencé. Mais oui, bah, je vais devoir marcher ou faire du vélo pour réussir à nouveau à écrire, parce que l'immobilité ne me convient pas, en fait. Alors, c'est paradoxal, parce qu'en fait, le roman a été écrit au moment où j'étais statique. Mais il y avait eu l'errance auparavant, donc j'ai besoin d'une errance avant d'être statique pour coucher les choses.
Et comme vous l'avez dit, c'était sans doute aussi une façon de continuer à voyager de façon immobile.
Voilà. Et là, ben, le second roman, donc c'est un scoop, attention, sera sans doute islandais. En grande partie, mais pas seulement, Afrique du Nord aussi. Et dans les écueils, ou je ne sais pas comment nommer ça, les choses qui m'ont choqué, on va dire, vraiment profondément, durant mon voyage, enfin notre voyage en l'occurrence, c'est la condition des femmes dans les pays que nous avons traversés. Et indirectement, j'ai envie d'aborder ce problème-là, même si ça va passer par une histoire qui peut sembler très lointaine et très éloignée de nous, parler de la condition des femmes. Oui.
Oui.
Alors, on a déjà parlé tout à l'heure quand on a abordé un peu le sujet autrement, mais il n'y a pas de volonté explicite, en tout cas pas de donner de leçons ou de vouloir édifier. C'est toujours un peu dangereux, ça, dans un roman, ça ne donne pas forcément de bons résultats. Mais encore une fois, oui, ouvrir des voies ou donner simplement à montrer. Montrer, après, le lecteur est libre ou non d'emprunter cette voie ou pas. Alors oui, j'ai envie de dire des choses sur la condition féminine parce que c'est quelque chose de terrible parfois. Je vais vous citer juste un exemple. En Inde, à Agra, ma compagne et moi, volontairement, sommes allés dans un bar associatif qui s'occupe des femmes vitriolées. Vous voyez ce que c'est ? Non. En Inde, je ne sais pas comment nommer cette pratique, c'est une pratique barbare. Certaines femmes sont vitriolées, c'est-à-dire souvent des hommes, et pas seulement, hélas, on leur jette au visage de l'acide sulfurique. De l'acide sulfurique.
ce qu'on appelle le vitriol.
Voilà. Pour quelles raisons ? C'est souvent pour des raisons bassement matérielles de dot qui n'a pas été versée, de jalousie, d'achat de terre, de suspicion d'adultère. Toutes les excuses sont possibles. Et donc, je vous promets que je me suis senti vraiment très, très mal, sans mauvais jeu de mots, hein, dans ma peau d'homme, de mâle, là, pour le coup, face à ces femmes qui venaient me servir avec le visage dévoré par l'acide sulfurique. Ça ne m'a pas empêché de les trouver belles, parce que cette association leur redonnait un statut, parce que non seulement elles sont vitriolées, ces femmes, mais en plus, elles sont rejetées par leur famille. Donc, elles sont doublement rejetées, elles sont plus que dans la marge, et elles n'ont plus aucun statut, puisqu'elles portent sur leur visage la marque de l'infamie. Et donc, c'est très difficile pour elles de se réinsérer. Donc, il y a des associations qui s'en occupent, et je trouve hallucinant qu'aujourd'hui, on en soit encore là, quel que soit le pays. Je vous donne un autre exemple. Mon frère travaille dans l'humanitaire. Il était à Kaboul lorsque les talibans sont rentrés à Kaboul. Et très régulièrement, il était invité à des lapidations. Il n'y allait pas, hein, évidemment. Mais très régulièrement, les talibans lui envoyaient des invitations pour aller voir des femmes se faire lapider, généralement pour des questions de suspicion, hein, d'adultère, et absolument pas d'adultère avéré. Voilà. Ça, je trouve ça tellement, tellement hallucinant. Et puis, regardez toutes les affaires qui ont défrayé la chronique. On n'est pas sorti du sale, comme on dit. Il y a encore énormément de travail à faire. Je ne parle pas d'arriver à une égalité. Je ne crois pas à l'égalité homme-femme. Je crois qu'il y a une différence. Et que c'est cette différence-là qui doit être cultivée, à condition que les femmes ne soient pas réduites en esclavage d'une façon ou d'une autre.
Mais alors peut-être juste pour rebondir et puis après la dernière question là-bas, même si il ne s'agit pas de dénoncer dans vos romans et qu'il s'agit bien de montrer, est-ce que on pourrait rejoindre la question du rôle de l'écrivain, est-ce que le rôle de l'écrivain n'est pas aussi de se saisir de sujets ou de pans de notre humanité qui ne sont pas forcément souvent sur le devant de la scène. L'histoire argentine en France, on la connaît assez peu. L'histoire des Tziganes, Paola Pigani a travaillé un petit peu dessus, ou Alice Fernet, mais c'est pas non plus une histoire encore très connue, parce qu'effectivement il y a pas mal de choses qui sont occultées. Donc est-ce que un des rôles peut-être de l'écrivain, ou la place de l'écrivain ou de la littérature serait pas aussi justement de montrer ces sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de se pencher, en fait, tout simplement?
Oui, il y avait une volonté, en tout cas de ma part, de faire justice, de rendre justice en quelque sorte aux Tziganes et de leur donner la parole, même si ça n'est que imparfait. On voit que j'ai perdu l'habitude de parler longtemps, je perds ma voix, alors qu'autrefois je le faisais 6 ou 7 heures par jour en cours. Hein, là, et vous voyez, j'ai un peu de mal. Donc oui, il y avait cette idée de rendre justice à un peuple finalement qu'encore aujourd'hui on juge de manière un petit peu hâtive et qu'on regarde avec énormément de méfiance, voire de dégoût. J'étais confronté à des jugements de valeur assez terrifiants à l'égard des populations, des gens, ceux qu'aujourd'hui on appelle des gens du voyage. Oui, c'était leur rendre justice et peut-être induire un nouveau regard sur eux, un petit peu plus bienveillant. Si j'ai réussi ça, c'est déjà super, hein, voilà.
Johanna, vous ne vouliez pas rebondir, enfin répondre?
Non, mais autant écouter, oui, l'autre question.
Alors, ce sera la dernière, effectivement, parce que l'heure est avancée. Pardon, est-ce que... Ah. Vivre de son écriture.
Pardon. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, parce que ça me plaît beaucoup comme... comme médium en fait de travail. Après, le principe de réalité est que c'est quand même extrêmement compliqué de vivre de sa plume, c'est-à-dire qu'il faut vendre énormément d'ouvrages, donc il y a peu de personnes. Pour vous donner des chiffres très concrets, les auteurs de best-sellers, on est sur 100 000, 300 000 exemplaires qui se vendent. Pour un premier roman,
si on arrive à en vendre 2000, c'est plutôt pas mal, en gros, si je ne me trompe pas trop dans les
3000
chiffres.
3000 maximum.
Ouais, c'est ça, on est à peu près dans ces fourchettes. Donc en fait, c'est presque une prise de risque financière pour un auteur que de sortir un premier livre. Donc oui, ce serait formidable. Après, on n'écrit pas à partir de rien non plus. Donc c'est important de vivre, de rencontrer, d'explorer, de voyager. Autrement, je pense que les écrits seraient terriblement creux et manqueraient de... Bah oui, de ce regard dont on parlait juste avant, en fait, sur le monde, sur les oubliés, sur les histoires oubliées en règle générale.
Et pour compléter la réponse, avant qu'Alain donne son avis, faut savoir qu'un écrivain, donc sur le prix du livre, on considère qu'il touche entre 6, selon les contrats, entre 6 à 10%. Sachant qu'un livre est autour de un livre en grand format autour de 20-22 euros, donc voilà, l'auteur touche entre 1,50 € et 2 euros à peu près par livre. Donc vous voyez que sur un premier
brut.
Roman, oui, c'est ça, après il faut enlever
Après il y a toutes les taxes, et puis après il y a les impôts, donc voilà. Après il reste pas grand chose, hein, objectivement.
Donc on va dire à peu près 3 000 euros, si on vend 3 000 euros pour un roman qu'on a mis 30 ans à écrire, c'est pas très rentable.
Après, pour répondre rapidement à cette question, ça dépend comment vous vivez. Moi, n'ayant pas de maison, absolument aucune charge, je peux vivre avec très peu. Et de fait, nous avons vécu avec très peu. Hein, notre budget hebdomadaire, à peu près, c'est $30. Voilà, faites le calcul.
On
n'est pas loin des 30 euros par semaine. Donc, j'ai pas besoin de vendre tant de livres que ça pour continuer à voyager, en fait. Hein.
Un premier roman et hop, 10 ans de vie gagnée.
C'est ça.
Bien, bah, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, merci Alain Mascaro. Merci. Merci Johanna Kravzik, qu'on peut donc retrouver, on peut donc continuer à les retrouver sur le festival. Et merci à vous pour vos questions. Merci d'avoir lu attentivement ces romans et on espère que vous en parlerez autour de vous.
Merci à tous.